proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir François Hazard de Lieur Édition. Bonsoir François.
Bonsoir Sandrine.
Alors vous êtes l'un de ceux qui œuvraient pour la pérennité de la culture judéo-espagnole en France. Vous dirigez une maison d'édition, Lieur Édition, qui édite des livres et de la musique qui préserve cet héritage. Expliquez-nous déjà le fil qui lie entre elles les œuvres que vous choisissez d'éditer.
Alors, ce sont des œuvres de transmission, je dirais. On est dans une longue chaîne à la fois d'édition, puisque moi j'ai repris finalement le flambeau de Jean Carasso, qui lui-même le tenait de Sam Levy et de Raïm Vidal Sefira. Donc il y a une continuité dans notre travail d'édition autour de la mémoire judéo-espagnole. Et donc les livres que je publie sont pour moi des leçons de vie. En fait, ce ne sont pas seulement des livres de mémoire, de nostalgie, mais des personnes qui ont cherché à transmettre leur expérience. Et par ailleurs, c'est peut-être l'originalité de Lieur, on essaie d'avoir une vision qui ne soit pas seulement nostalgique, mais aussi une vision créatrice, c'est-à-dire de, à partir de notre héritage, de créer aussi des livres de contes qui soient très illustrés, de faire aussi des disques, parce que la dimension musicale chez les judéo-espagnols est omniprésente, et donc de donner aussi leur chance à de jeunes créateurs qui reprennent cet héritage et le transfigurent, le magnifient, lui donnent une nouvelle actualité.
Alors vous parlez de leçons de vie judéo-espagnole, c'est à juste titre le thème d'une des collections.
Voilà, c'est la collection, je dirais presque centrale de notre maison d'édition. Donc aujourd'hui, nous avons 8 livres publiés. Mon idée, c'était finalement, moi aussi, j'ai fait un parcours de redécouverte de mes racines judéo-espagnoles, comme beaucoup. Il y a eu un défaut, une transmission, on va dire, incomplète, parfois très absente. Et à certains moments de la vie, parce qu'on a des enfants, parce qu'un traumatisme est arrivé, une maladie, je ne sais quoi, on a envie de revenir, de retrouver en fait ses racines. Et ce parcours, je l'ai fait justement à travers des livres. Et donc, j'ai lu des dizaines de livres judéo-espagnols. Il y a un florilège extraordinaire de mémoire en particulier. Et j'ai eu envie de choisir dans ces livres ceux qui m'avaient particulièrement marqué pour pouvoir leur donner, parce que souvent ils ont été édités il y a 10, 20, 30 ans, ou bien ils ont été simplement édités dans des toutes petites collections à l'étranger, et leur donner une vraie chance vis-à-vis point de vue du public français d'abord, hein, puisque ce sont des livres qui sont publiés en français, et de les faire découvrir à d'autres qui ont envie de faire le même parcours que moi.
Alors des livres, des contes pour enfants, des CD figurent à votre catalogue, selon l'objectif que vous venez de définir, et puis peut-être une volonté, hein, semble-t-il, celle de montrer tous les lieux où les Juifs expulsés d'Espagne ont essaimé. Alors ça va du Far West à la Bosnie, en passant par la Turquie ou la Grèce, et on oublie souvent, hein, que la diaspora judéo-espagnole, c'est plusieurs continents.
Absolument. C'est le point commun, je crois, avec la culture yiddish, c'est que c'est une culture qui est devenue universelle. Hein. Donc il y a des judéo-espagnols en Afrique du Sud, au Congo, en Australie, évidemment aux États-Unis, en Amérique, ça on le sait un peu mieux, en Europe, en Israël, en Turquie, en Grèce. Et donc c'est aussi une façon de redécouvrir le monde, et ça c'est aussi une des façons, enfin un des leitmotivs de notre travail d'éditeur, c'est d'avoir une vision extrêmement ouverte. Les judéo-espagnols sont des gens extrêmement curieux de l'univers, qui savent s'approprier, hybrider les cultures qu'ils rencontrent, les cultures de contact, qui sont très polyglottes aussi, ça c'est une caractéristique. Non seulement il y a le judéo-espagnol bien sûr, mais tous parlaient d'autres langues, que ce soit des langues occidentales comme le français, l'italien, l'anglais, l'allemand, ou bien évidemment le grec, l'arménien parfois, le turc évidemment, qui avait une place très importante, et puis il ne faut pas oublier l'hébreu.
Alors vous parliez il y a un instant de vos origines familiales, vous c'est de quel coin après l'Espagne ?
Alors après l'Espagne, il y a sans doute eu peut-être un passage vers l'Italie, mais c'est vraiment la Turquie, Izmir, qui était le berceau de ma famille.
D'accord. Alors, des langues judéo-espagnoles, des coutumes, des plats peut-être, des chants, des souvenirs, elles reposent sur quoi aujourd'hui cette culture ?
Alors, je crois qu'il ne faut jamais oublier la langue qui est très structurante. Moi, ça fait un peu peur d'ailleurs là, au départ, parce que moi, j'ai voulu revenir vers ses racines. Je me suis intéressé aux associations judéo-espagnoles, en particulier à une qui s'appelle Aquí Estamos, dont je suis aujourd'hui vice-président. Et ma première crainte, c'était, mais je vais aller chez eux et ils vont tous parler judéo-espagnol et comment je vais me débrouiller. Moi, je ne parle que l'espagnol et encore pas parfaitement. Et en fait, ils parlaient tous français. Évidemment, ils connaissaient un peu de judéo-espagnol, mais c'était très minoritaire et c'était plus du tout devenu une langue pratiquée. Et donc, c'est un cheminement progressif vers la langue, vers la reconquête de cette langue que j'ai fait au bout de 10, 12, 13, 14 ans. C'est une langue que je pratique au quotidien et qui est devenue familière. Mais je crois que voilà, il faut... la langue est vraiment l'élément structurant, mais on n'y rentre pas aussi facilement que ça. Donc il faut aussi autour des choses qui soient beaucoup plus conviviales. Et tu as évoqué par exemple la cuisine. Et la cuisine, c'est évident que c'est un partage. Alors là, pour le coup, tout le monde dans le monde judéo-espagnol a un arrière-goût, une madeleine de Proust, que ce soit une borecas ou un mogado, ou chez nous, il y avait aussi les bizcochos, que l'on appelait biscuit mamo, parce que mamo, c'était ma grand-mère. Donc derrière, il y a tellement d'affection, en fait, pour des anciens, pour des souvenirs.
D'où les chants aussi et les comptines.
Voilà, les chants, on s'aperçoit dans les mémoires judéo-espagnoles que ça servait pas seulement de distraction, mais aussi d'exutoire, de tout simplement de thérapie. Quand les judéo-espagnols, il ne faut pas avoir une vision d'un âge d'or judéo-espagnol. La vie dans l'Empire ottoman était très difficile, très dure, et même s'il n'y avait pas un antisémitisme comme il a pu exister dans l'Empire russe ou en Pologne, la vie économique, la survie économique était très difficile. Et il y a des moments de très grandes difficultés, de tragédie, et on s'aperçoit qu'un des moyens de soigner ça, c'est le chant, c'est d'exprimer le chant. Et il y a un répertoire gigantesque pour une communauté qui n'a, au fait de son importance numérique, n'a jamais rassemblé que plus que 300 000 personnes, 350 000. Eh bien, on a un répertoire absolument gigantesque et qui, surtout, est encore beaucoup pratiqué aujourd'hui, ce qui nous donne quand même de l'espoir pour le judéo-espagnol.
Alors, avec beaucoup d'humour, hein, un peu comme le yiddish, et c'est aussi peut-être un lien qu'on fait à tort, est-ce que, comme le yiddish, c'est un monde disparu, le monde de judéo-espagnol ? Est-ce qu'il est encore dynamique ? Est-ce que c'est possible ?
Alors, j'ai envie de dire, c'est... Le judéo-espagnol est mort, vive le judéo-espagnol. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une étape qui correspond à la, on va dire, la deuxième ou la troisième diaspora, c'est-à-dire le départ non plus des juifs d'Israël ou d'Espagne, mais le départ de l'Empire ottoman. Donc ces communautés qui étaient très structurées par le système communautaire, les miliettes de l'Empire ottoman, donc où il y avait une autonomie, une justice rabbinique qui était tout à fait licite et acceptée par les Ottomans, tout d'un coup, avec la fin de l'Empire ottoman, l'émergence d'États-nations, ces communautés, ces frites, disparaissent. Mais en même temps, où elles disparaissent, elles s'effacent, il y a un certain nombre d'intellectuels d'abord qui réalisent que toute une culture va être perdue à cette occasion. Et ils commencent à l'enregistrer dès la fin du 19e siècle. On a des témoignages de chants, de proverbes, de proverbiers qui sont recueillis par des ethnographes qui appartiennent soit à la communauté juive, soit parfois qui viennent d'Espagne. Et donc, on a un mouvement, contradictoire, à la fois de disparition de cette communauté progressive et puis de patrimonialisation. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle disparaît, il y a un sentiment d'effroi devant cette disparition. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui, ce patrimoine-là qui a été recueilli pendant plus d'un siècle, de repartir de bases très solides pour revitaliser et redonner quelque chose qui soit de l'ordre communauté au sens non pas évidemment de comme les judéo-espagnols quand ils venaient d'Orient, ils étaient accueillis souvent dans des cafés, on leur trouvait un logement, on leur trouvait un travail. Bon, aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça. C'est plus une communauté de ferveur, de partager un héritage commun Et je crois que ça aussi, ça existe, par exemple, à travers les concerts que nous organisons. Je crois que les gens communient d'une certaine façon autour de leurs racines.
Vous sous-entendez peut-être que la religion est moins le ciment de ce groupe ?
Oui, ça c'est aussi important. Les judéo-espagnols, évidemment, c'est un monde traditionnel, la religion a une place importante, hein, mais leur approche de la religion n'a jamais été radicale, excessive. Ça a toujours été, je crois, plus un attachement aux racines, un attachement aux traditions, et en particulier aux traditions familiales. Donc il y a un côté très clanique, hein, chez les judéo-espagnols, une grande fierté en particulier des origines et du nom de famille. C'est aussi une culture patriarcale, hein, il faut aussi aujourd'hui c'est quelque chose qui est peut-être moins tendance, on va dire,
moins à la mode.
Donc il y a aussi, voilà, dans la façon de se réapproprier ce patrimoine, il y a aussi une évolution, hein. Il y a aussi la place des femmes n'est plus la même. Donc effectivement, je crois que ce qui est tombé en premier, c'est ce lien religieux qui est, on voit bien qu'à partir des années 20, années 30, avec l'exil, beaucoup de rites religieux sont moins pratiqués, ou pratiquer avec beaucoup de distance.
Et les traditions, en revanche, restent. Alors, on connaît les difficultés, hein, pour diffuser et intéresser à la culture juive en général, mais quand il s'agit d'une de ces facettes, hein, en l'occurrence la culture judéo-espagnole, est-ce que, pour vous, c'est comme un défi à relever à chaque fois de diffuser cet héritage?
Oui, voilà, c'est vraiment un défi, c'est un challenge. Donc, c'est un peu comme le sionisme, finalement, au départ. Hein. Si c'est un rêve, ça peut devenir réalité. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est, je fais maintenant un parcours d'à peu près 15 ans, hein, autour de la culture judéo-espagnole. J'ai eu le sentiment au début qu'on était... On était un peu seul et qu'il y avait vraiment, en France, c'était vraiment le lieu de la renaissance de cette culture. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a essaimé partout et je vois des tas de choses qui se créent aux États-Unis, en Israël, alors que c'était donné comme quelque chose de
moribond.
Moribond, ouais. Voilà, qui n'intéressait plus qu'une, vraiment des gens âgés, quoi, des cercles d'anciens, on va dire. Aujourd'hui, il y a vraiment toute une jeunesse qui se réapproprie cette culture et surtout cette langue, hein, je pense que c'est important parce que c'est vraiment sans la langue, on manque quelque chose d'important.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom en compagnie de François Hazard qui nous parle de sa maison d'édition, Lior Édition. Alors votre actualité, on va entrer dans le vif du sujet, c'est la parution dans la collection Leçons de vie judo-espagnole de deux livres, Les Lumières de Sarajevo de Moïse Abinoun et Couvre-feu de Clarisse Nikoïtski. Alors il se trouve que Clarisse est la fille de Moïse, quelle heureuse coïncidence.
Voilà, alors
est-ce que c'est une coïncidence?
C'est une coïncidence. Alors, en fait, même, on va presque parler de dynastie d'écrivains ou d'écrivaines, puisque Clarisse Nikoïtski est aussi la fille d'Élie Robert Nikou, qui est un écrivain et traducteur d'anglais, qui a publié il y a 2 ou 3 ans chez Stock un livre qui s'appelle Irremplaçable, qui est consacré à sa mère, Clarisse Nikoïtski, et à son père, Robert Nikou, qui était un peintre qui a eu son heure de gloire. Donc 3 livres, et c'est très intéressant aussi parce que ça montre l'évolution de... Enfin, 3 écrivains, ça montre l'évolution aussi d'une famille judéo-espagnole depuis donc, la Bosnie, puisque Moïse Abinoun est né à Sarajevo.
Alors, je vous coupe, mais j'ai vu des photos, justement, le premier livre dont on va parler, Moïse Abinoun, Les Lumières de Sarajevo, se clôt avec un cahier photo.
Oui.
Et il y a une photo de Mathilde et Moïse Abinoun et avec leur enfant, Clarisse et Jacques. Donc, ce n'est pas la Clarisse.
C'est la même, absolument. Donc, il y a une photo. Donc, on a dans ce livre la chance d'avoir un très bel album de famille. Et il y a une photo qui est prise pendant la guerre, effectivement, où on voit Mathilde et Maurice Abinoun, donc l'auteur Moïse Abinoun. Hein,
oui.
Les judéo-espagnols ont l'habitude d'avoir par plusieurs noms, plusieurs identités. Et donc, on voit effectivement Jacques et Clarisse photographiés, je crois que ça doit être en 1943, c'est-à-dire au moment... Enfin, ça correspond à peu près à la période sur laquelle elle écrit dans son livre « Couvre-feu », c'est-à-dire la vision par une enfant de 4-5 ans de la guerre et de voilà, des persécutions. De...
Alors, si vous me le permettez, François, oui. Je vais essayer de résumer hein, ces deux ouvrages. Dans Les Lumières de Sarajevo, l'auteur et narrateur Moïse Abinoun plonge le lecteur dans un monde qui a disparu dans la Shoah, les Juifs de Sarajevo et des localités voisines. On oublie hein, souvent que le judaïsme séfarade s'est aussi installé dans les Balkans et qu'il a vibré au rythme des soubresauts politiques de la région. Ce récit nous apprend le quotidien d'une famille juive de Sarajevo sur plusieurs générations, une famille à la fois patriote et en même temps pieuse. Et ce qui est attendrissant dans ce récit, hein, c'est sans doute son point fort, c'est la simplicité du bonheur du quotidien qui se joue devant le lecteur. On pleure. Alors oui, j'ai pleuré, hein, je l'avoue, on sourit aussi. Et puis c'est aussi l'occasion de lire une description précise de la manière dont le judaïsme issu de la péninsule ibérique s'est exporté avant, pendant et après la Première Guerre mondiale, quand il était pérenne. Le rythme de la vie juive, les coutumes et habitudes des juifs locaux, leurs chansons, leurs mets du quotidien ou des fêtes, c'est tout un monde englouti qui défile devant nos yeux de lecteurs en toute simplicité, sans fioritures, et le témoignage est unique, presque historique. François, comment avez-vous mis la main sur ce manuscrit ?
Alors c'est un livre classique, hein, c'est un classique, Les Lumières de Sarajevo, c'est le livre vraiment de référence sur le judaïsme séfarade de Bosnie ou d'ex-Yougoslavie. Judaïsme qui effectivement a été englouti par la Shoah, de même que, voilà, que les communautés des Balkans, en particulier celle de Sarajevo. C'est un livre effectivement très touchant, qui se lit de façon très simple, hein, c'est un livre, Moïse Abinoun était tailleur, hein,
il a écrit en judéo-espagnol ou en français ?
Il l'a écrit en français, mais oui. Il y a pas mal de passages en judéo-espagnol qui sont traduits, et à la fin il a en particulier donné un certain nombre de chants qui avaient été transmis dans sa famille et qui sont évidemment traduits. Donc, un livre touchant, un livre aussi lumineux. Hein. Le titre, c'est Les Lumières de Sarajevo. Je crois que, voilà, il y a deux façons de voir ces deux livres. Hein. Clarice Nikoïtski, c'est Couvre-feu. C'est un livre nocturne. C'est un livre qui, effectivement, se passe dans une période tragique, une période très difficile de guerre et où on se cache. Moïse Abinoun, Les Lumières de Sarajevo, c'est un livre qui est encore, je dirais, sous le soleil. Non pas de l'Espagne, mais des Balkans, à une période qui est encore heureuse. C'est pas une famille très riche, hein, il faut le rappeler. C'est une famille, d'ailleurs, sa grand-mère était orpheline. C'est une famille, voilà, un grand-père cordonnier, l'un est receveur de tramway, et c'est déjà une certaine situation, on va dire. Lui est rabbin, mais c'est un rabbin, voilà, dans une petite communauté, donc c'est pas quelqu'un de très riche, mais c'est une famille qui a le bonheur au cœur. C'est une famille qui a cette originalité de faire des mariages d'amour à une époque où ça ne se faisait pas tellement. Même si c'est des mariages entre cousins ou cousines, c'est des mariages qui sont vraiment heureux. Et je crois que ça baigne quand même, malgré les tragédies d'histoire, malgré la guerre de 14-18, dans une atmosphère de bonheur.
Alors c'est vraiment ça qui ressort, c'est un livre feel good. C'est vraiment le livre qu'on a envie de lire et comme je disais, voilà, c'est sans fioritures et on apprend des tas de choses. On apprend par exemple l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, héritier du trône d'Autriche à Sarajevo, eh bien, la famille y assiste et ils le décrivent de l'intérieur. C'est quelque chose quand même incroyable. C'est presque une banalité de le dire, mais ce livre vraiment, c'est une nouvelle fois la petite histoire qui rencontre la grande histoire et qui fait œuvre historique.
Oui, puisque même le père de Moïse Abinoun a gardé l'assassin de l'archiduc, hein, Gavrilo Princip, et son oncle était ami avec le frère de l'assassin. Donc voilà, là, effectivement, on est aux premières loges, là, pour le coup. Hein, et il va être, d'ailleurs, alors, son père, Samuel Abinoun, donc, va être blessé grièvement dans la Première Guerre mondiale. Et c'est là où il fait le serment il voulait être horloger, et finalement, il fait le serment, s'il s'en sort, de devenir rabbin, il va tenir sa parole.
Alors, s'il n'y avait qu'un livre à lire, mais il y a au moins ces deux-là et les 8 autres de la collection, mais ce serait vraiment ce livre Les Lumières de Sarajevo, parce qu'on apprend quasiment tout sur le fonctionnement d'une famille judéo-espagnole, la nostalgie de cette Espagne qui est très loin quittée, les petits tromances, les plats, leur manière de penser, leur rapport à la religion qui est loin d'être un fanatisme, qui se vit presque naturellement comme l'air qu'on respire, et pourtant il y a des rabbins, il y a des razanes, il y a des des chantres, il y a vraiment tout l'éventail. La construction aussi de la communauté de Sarajevo, puisque ça se passe aussi au moment où la grande synagogue va être créée. Et puis la disparition d'un monde, ce monde judéo-espagnol dans la Shoah. Et c'est vraiment le livre, à mon sens, de référence pour connaître cette période. Alors, ce récit de Moïse Abinoun se prolonge avec le second livre qui fait votre actualité, Couvre-feu de Clarisse Nikoïtski. Elle est non moins que la fille de Moïse Di Moris et de Mathilde Abinoun, l'auteur du livre dont nous venons de parler. Il y a d'ailleurs, alors comme je le disais, des photos d'elle enfant en postface du récit. Et ce roman évoque la vie à Lyon de cette famille juive séfarade originaire de Sarajevo par les yeux d'une petite fille, Judith. Et la période couverte est celle de la Shoah. C'est la fin d'un monde et le début d'un autre, vous le disiez tout à l'heure, que l'auteur raconte. C'était évident pour vous de publier ces deux livres en même temps et ensemble ?
Oui, alors le livre de Clarisse Nikoïtski, évidemment, pour moi, c'est un grand coup de cœur. C'est un livre dont je suis tombé amoureux. C'est là le livre d'une véritable écrivaine. Clarisse Nikoïtski a plus d'une trentaine d'œuvres à son actif. Et c'est surtout une poétesse judéo-espagnole. Elle est surtout connue aujourd'hui, en particulier en Amérique latine, pour ses poèmes judéo-espagnols, dont je crois qu'il y a un projet de les republier chez Gallimard. Donc, Couvre-feu est le livre qui l'a fait connaître dans les années 80. Il a reçu le Grand Prix des Lectrices de Elle. C'est un livre, là aussi, extrêmement poétique, mais d'une poésie différente, évidemment, de celle de Moïse Abinoun. C'est une poésie très écrite. Aujourd'hui, on parlerait d'ailleurs, pour qualifier ce livre qui est indiqué comme roman, d'autofiction, puisqu'elle raconte, en fait, la guerre qu'elle a vécue enfant, à 4-5 ans. Voilà, d'une manière... Raconté par... C'est un défi, en fait, un défi d'écriture, parce que c'est vu à travers les yeux d'un enfant. Je pense par exemple à Aaron Appelfeld, qui Histoire d'une vie, où il raconte effectivement son enfance, mais là, c'est la mémoire d'un enfant vue par un adulte chez Aaron Appelfeld. Là, on est vraiment à hauteur d'enfant. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est qu'il y a deux mondes parallèles qui se côtoient. Il y a le monde des adultes qui, en fait, jouent des jeux d'adultes parce qu'en fait, ils passent leur temps à se cacher, à changer de cachette pour fuir les nazis. Les enfants qui voient ça et qui vont jouer aussi à des jeux qui imitent les adultes. Et de là naît une poésie et aussi une vérité. Je pense que j'ai pensé aussi à la comtesse de Ségur à certains moments, au monde des contes. La comtesse de Ségur, évidemment, c'est les petites filles modèles et les malheurs de Sophie, c'est-à-dire on fait des bêtises, mais c'est des bêtises qui ouvrent sur des vérités essentielles sur la vie. Il y a des jeux de miroir, des jeux de travestissement qui sont importants aussi, liés à cette volonté d'échapper à ce que les enfants... Il y a un refrain qui revient très souvent, c'est les nazis, la milice, la Gestapo et tout le bastringue. En fait, c'est le loup, l'ogre et le croque-mitaine. À cet âge-là, on le voit comme ça. Donc c'est un livre, je pense que la première chose qui vient à l'esprit, c'est la poésie. La poésie à hauteur d'enfant, la perception vue à hauteur d'un enfant, c'est-à-dire l'attachement aux couleurs, aux sensations, au toucher, au goûter, aux odeurs, au senti et au ressenti. Donc c'est, je pense aussi à l'attention au sang, au fluide, en fait, le lait, l'urine. Tout ça, c'est des choses qui sont très marquantes pour des enfants à 4-5 ans. Et ça apparaît dans son livre. Donc c'est, voilà, je pourrais en parler des heures. Oui. C'est un livre qui ouvre sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et en particulier sur la psychanalyse.
Alors, des impressions que je vais vous livrer. Alors, on l'a dit, le livre de Clarisse Nikoïtski prolonge celui de Moïse Abinoun. Pourtant, l'écriture est totalement différente. Vous l'avez dit, l'un est beaucoup plus littéraire. Celui couvre-feu de Clarisse, l'écriture quand même un peu plus soignée. Et puis, la lecture est facile. C'est qu'on pourrait imaginer que, encore une fois, une scène de vie d'une enfant, d'une famille juive pendant la Shoah, c'est un peu difficile à lire, on n'a peut-être pas forcément envie, mais tout est léger. Tout est fluide.
On est dans le monde des contes, en fait. C'est-à-dire que on va de scène initiatique en scène initiatique. C'est comme un voyage de cachette en cachette. Et à chaque fois, on découvre de nouvelles choses. Les adultes, elle est née en 1938, donc elle a quasiment connu que la guerre. En tout cas, elle n'a des souvenirs que d'un monde en guerre. Et elle découvre le monde en même temps qu'elle découvre la guerre. Donc, il y a une langue des adultes qui est un peu taboue. Il y a des choses qu'il faut cacher aux enfants. Et c'est un peu comme la langue, le yiddish ou le judéo-espagnol, les parents le parlaient pour que les enfants ne comprennent pas, et au bout d'un moment, ils comprennent tout. Et là, c'est pareil. Au bout d'un moment, ils comprennent bien ce que c'est la guerre. Mais ça prend du temps. Et la guerre est vue comme un grand jeu. C'est pour ça que, finalement, c'est à la fois très léger et très dur. Parce que, léger parce que c'est vu à hauteur d'enfant. Donc, c'est effectivement vu d'une façon, comment dire, ludique. Et en même temps, il y a la peur. Et en même temps... Il y a des moments où tout d'un coup se découvre Auschwitz en filigrane. Par exemple, il y a une visite de ferme où ils vont se ravitailler. Et là, ben, on découvre, la petite fille est emmenée par la fille de ferme qui lui fait visiter la ferme et elle voit en fait le sort tragique des animaux dans une ferme. Hein. Elle voit un écorché de lapin, des choses comme ça. Et tout d'un coup, eh ben, ça fait référence aussi au tragique de l'histoire qu'elle est en train de vivre. Mais c'est montré d'une manière très subtile. Il y a aussi une scène absolument magnifique, je pense que c'est une des scènes centrales du livre, c'est elle voit une petite fille sur un quai de gare qui est en train dont les parents sont en train d'être arrêtés par des Allemands. Et elle a un regard, il y a un échange de regards avec cette petite fille, elle lui fait un pied de nez, l'autre lui fait un pied de nez, et en fait elle sait que cette petite fille va être déportée. Et elle commence à comprendre ce que ça veut dire. Donc, ça va revenir comme leitmotiv. Donc, il y a cette idée-là que le monde des camps est aussi dans la vie quotidienne, est aussi en tout cas dans cette vie quotidienne. Ça se passe à Lyon. Hein,
oui.
Et c'est très important, toute la topographie lyonnaise, puisqu'on va d'endroit, y compris celle de la campagne lyonnaise, on tourne autour de Lyon.
C'est très visuel. Hein,
c'est très visuel.
Et vous avez fait un lapsus sur livre et film. Ça pourrait être un film.
Oui, tout à fait.
On l'imagine bien. Et il faut insister aussi, ce n'est pas un ouvrage pesant et difficile. Même des adolescents qui sont initiés à l'histoire de la Shoah peuvent débuter avec cet ouvrage.
Oui, et puis c'est un livre qu'on a envie de relire. C'est-à-dire que je pense que quand on a lu le livre de Moïse Abinoun, on a découvert tout ce judaïsme effectivement balkanique, mais on s'en est imprégné, on ne va pas forcément revenir dessus. Tandis que le livre de Clarice Nikoïtski, moi c'est ma deuxième lecture qui a été la plus magnifique, parce qu'il y a vraiment des passages qu'on a envie de lire et relire et relire. C'est tellement
très
bien écrit.
Très subtil dans l'écriture,
c'est
et ça c'est important.
Écrit.
Alors il faut dire que en général, hein, tous vos titres aux éditions Lior sont soignés, en établissant aussi un pont entre la sagesse judéo-espagnole et la culture universelle. Est-ce que c'est finalement ça le message? C'est qu'une petite communauté, alors ou moins petite, eh bien, donne un message universel qui intéresse tout le monde.
Absolument. Je pense que là, le message, c'est le monde découvert par un enfant. Alors, c'est pendant la guerre, mais j'ai eu des échos justement de personnes qui ne sont pas d'origine juive et qui m'ont dit, mais j'ai retrouvé tout le monde de mon enfance à travers ce livre. Parce qu'en fait, c'est les années 40 qui apparaissent là et d'une manière tout à fait sensible. Émouvante.
Alors l'actualité de Lior Édition, c'est des romans, des ouvrages, mais c'est aussi un album, celui de Daphné Kritaras, une artiste qui réinterprète des chants séfarades de manière envoûtante. Est-ce que vous pouvez nous en parler, et de l'album, et de cet artiste exemplaire?
Oui, alors c'est aussi une de nos grandes fiertés, hein, Daphné, donc, que j'ai eu la chance de découvrir il y a 4-5 ans dans une jam orientale à la Péniche Anako. Une voix magnifique, une voix bouleversante, et qui chantait déjà un chant judéo-espagnol. Et elle a accepté le défi, finalement, alors qu'elle est d'origine grecque, de s'approprier, je ne vais pas dire réapproprier, mais d'aller plus loin que ce seul chant judéo-espagnol, la Rosa en Florece, qu'elle interprétait, et de sublimer un peu notre héritage. Donc on a fait un premier album avec elle, Joyas de Mar, donc qui porte un titre judéo-espagnol, qui a eu un très grand succès, et donc on a eu évidemment l'envie de continuer, de doubler cette réussite avec donc ce deuxième album, Varka, qui est un titre grec, dans lequel il y a aussi des chants judéo-espagnols. Et pour montrer à quel point voilà, c'est une culture universelle, l'endroit, le lieu, le pays où ces chants ont aujourd'hui le plus de succès, mais d'une manière extrêmement retentissante, c'est la Turquie. Et évidemment, pas la communauté juive de Turquie, la communauté musulmane de Turquie qui écoute des chants grecs et judéo-espagnols avec un enthousiasme qui nous, voilà, qui nous réconforte ouais. sur finalement voilà, le monde tel qu'il est aujourd'hui, qui n'est pas peut-être aussi sinistre qu'on le pense.
Alors, ces chants nous transportent, et là, vous m'apportez un élément de réponse. J'étais persuadée qu'elle avait des origines judéo-espagnoles pour les habiter aussi bien.
Pas du tout. Ça prouve aussi l'avenir du judéo-espagnol, qui est vraiment une culture qui est universelle, comme voilà, la culture yiddish, une culture de diaspora, une culture qui parle à tout le monde.
Est-ce que, globalement, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir de cette culture ?
Ah ben moi, je suis résolument optimiste. Hein. En fait, il semble que pour les neurologues, la sphère du cerveau qui fait travailler l'imagination, c'est à la fois celle qui garde les souvenirs, celle qui voilà, nous tourne, ce qui nous tourne vers l'avenir, c'est aussi ce qui conserve le passé. Donc, en réalité, voilà, il y a beaucoup de choses qui me réconfortent. J'avais l'impression d'être, il y a 10 ans, d'être un des rares jeunes qui s'intéressait à cette culture. Aujourd'hui, je suis débordé par le nombre de jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, qui s'investissent dans ce domaine.
Quel espoir ! Alors, il y a une question classique, mais non moins difficile pour conclure cette émission, si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom, de lire Moïse Abinoun, Les Lumières de Sarajevo et Clarisse Nikoïtski, Couvre-feu. Qu'est-ce que vous leur diriez ?
Ben je leur dirais qu'avec ces deux auteurs, ils ont toute une journée, puisqu'ils ont à la fois la nuit et le jour. Ils ont à la fois le soleil et la lune. Donc, ils vont avoir... Et la lune, c'est un monde très poétique, c'est un monde de l'imagination, c'est un monde où on ferme les yeux. Et alors que bah, le jour, c'est un monde où on voit aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est deux visions différentes du monde par deux auteurs qui pourtant sont... sont liés par le lien le plus fort, puisque c'est un père et sa fille.
Merci infiniment, François Hazard, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir parlé de votre actualité. Je le répète, la sortie aux éditions, à Lior Édition, Moïse Abinoun, Les Lumières de Sarajevo et Clarisse Nikoïtski, Couvre-feu, deux romans complémentaires qui sont vraiment à recommander et que j'ai beaucoup apprécié. Bonsoir et à très bientôt.
Merci Sandrine.
Merci.